Donc, Enrico est au collège, accueilli au collège. On connaît son travail, puisque Enrico s'interroge sur l'essence même du web. Et ce qui m'a particulièrement intéressé dans les biographies que j'ai trouvées, parce que diversité du web, il y a plein de choses sur vous tous, hein, sur le web, des sites officiels, moins officiels, un peu de tout. Ce que j'ai trouvé qui a retenu mon attention, certes, c'est docteur en philosophie, donc des passages par une discipline qui vous rassemble ce matin, mais aussi un travail vraiment centré sur le cinéma. Hein. Là, le cinéma, les quatre livres Enrico que vous avez publiés portent sur le cinéma, des façons différentes de voir le cinéma, avec des propos qui parfois s'inspirent largement de l'histoire aussi. Hein. Il y a une sorte d'histoire aussi du cinéma, enfin de certaines thématiques. Et ce que j'ai retenu, c'est une réflexion, alors je peux m'être trompée, mais une réflexion sur la matérialité des images. Cette question de la matérialité des images, je ne sais pas si elle va être présente, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit présente dans le propos ce matin, donc je vous passe la parole.
Donc, mon idée ici, oui, c'est de voir un peu de chercher d'appliquer les modèles que j'ai élaborés, l'approche que j'ai au cinéma et aux images plus en général comme phénomène technique et social au cas du web. Donc, c'est se demander qu'est-ce que c'est le web, comme je suis dans mes travaux précédents, j'ai cherché de me demander qu'est-ce que c'est le cinéma. Et donc, je cherche de faire surtout un travail, ce qu'on appelle la métaphysique descriptive. C'est-à-dire, c'est une tradition qui commence peut-être avec Aristote, mais qui a été relancée dans le XXe siècle par les philosophes anglais d'Oxford, en particulier par Peter Strawson, et qui a appelé cette façon d'utiliser des catégories philosophiques pour décrire qu'est-ce qu'il y a dans la réalité, et il a usé cette expression de métaphysique descriptive ou ontologie descriptive, dans laquelle je me retrouve bien à l'aise. Donc, je vais chercher de décrire quelle chose est le web, et essayer de faire un exercice de considérer des catégories métaphysiques et de voir comment on peut les appliquer au web. Et je vais caractériser le web d'une autre façon, qui sont liées entre eux, comme un artefact, comme un espace et comme un monde. Enfin, comme vous pouvez voir aussi, la question de langue, c'est aussi dans le PowerPoint. Donc, je parle en français, mais les PowerPoint sont en anglais. Donc, la première catégorie que je vais chercher d'appliquer au web, c'est la distinction entre ce qui est abstrait et ce qui est concret. Donc, une définition très simple, c'est la ligne à Aristote. C'est-à-dire, c'est concret. Ce qui a une location dans l'espace et dans le temps. Donc, c'est concret quelque chose qu'on peut indiquer, qu'on peut dire, elle est là maintenant. Par exemple, la Tour Eiffel, c'est concret dans le sens qu'on sait où on est et on sait aussi quand elle a commencé à exister. On peut aller là, on peut dire, elle est là. Tandis que abstrait, c'est quelque chose qui a une existence, mais qui n'a pas. On n'a pas moyen de le situer dans une position précise dans l'espace. Les nombres sont des entités de ce type. Le numéro 2, on ne peut pas dire ça. On peut dire il y a deux choses là, mais on ne peut pas dire le numéro 2, maintenant je sais où il est là. Donc on peut dire qu'il est toujours et il est partout, qu'il n'est jamais, il n'est nulle part. Mais enfin, ce que le fait dans nombre, une entité abstraite, c'est le fait qu'il n'a pas une position précise définie dans l'espace et dans le temps. Et enfin, il y a une troisième catégorie qui a été appelé de façon différente. Maintenant, j'utilise le terme de quasi-abstrait qui a été utilisé par par le philosophe anglais Barry Smith. Et c'est, ce sont des choses qui ont une place seulement dans le temps, mais pas dans l'espace. Dans le concret, c'est quelque chose qui a une place dans le temps et dans l'espace. L'abstrait, qui n'a pas une place ni dans le temps, ni dans l'espace. Tandis que le quasi-abstrait, c'est... on peut dire où ça commence, donc on peut lui donner une position dans le temps, mais on ne peut pas lui donner une position dans l'espace. Un exemple typique d'objets quasi-abstraits sont les travaux musicaux, par exemple les symphonies. La symphonie numéro 5 de Beethoven, par exemple, la cinquième symphonie de Beethoven, on ne peut pas dire où elle est maintenant. On a des disques qui la contiennent, on a des partitions, on a peut-être quelqu'un qui est en train de l'exécuter dans ce moment, mais on n'a pas une place précise dans le monde où on peut dire la cinquième symphonie de Beethoven, elle est là. Mais on peut quand même dire quand ça a commencé. Donc on peut lui donner une position dans le temps. On peut dire, bon, c'est quelque chose qui a été créé dans 1808. Donc ce n'est pas exactement comme les nombres. C'est quelque chose qui s'est abstrait dans un certain sens, parce qu'il n'y a pas de position précise dans l'espace. Mais il y a quand même un moment dans le temps dans lequel il commence à exister. Et ma proposition, c'est que c'est la bonne catégorie pour classer le web dans ce regard. C'est pas le web, c'est pas concret, c'est pas abstrait, parce qu'il commence dans le temps. Il a un commencement dans le temps. On peut dire qu'il a été inventé, il a été créé dans 1989. Mais il n'a pas une position précise dans l'espace. Ce qu'il y a dans l'espace, il y a plutôt du matériel, il y a des ordinateurs, des câbles. Mais on ne peut pas dire le web, je sais où il est là. C'est quelque chose, ce qu'on considère comme le web, c'est qu'on va, quand on va naviguer, on n'a pas l'impression de c'est avoir une relation avec quelque chose qui a une position précise dans l'espace. Donc, dans ce sens-là, on peut le classer plutôt du côté des objets quasi abstraits comme les symphonies. La deuxième distinction que je vais considérer, c'est celle entre l'universel et le particulier. Si, c'est une distinction qui vient de la tradition métaphysique. C'est l'universel, c'est une chose qui a des exemplaires. Par exemple, la circonférence, on peut la considérer un universel dès qu'on peut avoir un certain exemplaire d'une circonférence. Celui-ci, c'est un autre exemplaire, il y a un autre exemplaire. La circonférence qu'il y a au fond de cette bouteille, c'est aussi un exemplaire de circonférence. Donc, c'est un objet qui peut avoir plusieurs exemplaires. Aussi, les mots, ils sont fondamentalement des universels. Dès que le mot « je » en français, par exemple, c'est un mot qui est défini comme on sait ce que c'est. Mais quand je dis « je suis heureux », c'est le « je » que je dis, c'est un exemplaire, une occurrence du mot « je ». Donc, le mot a des occurrences, il peut avoir plusieurs occurrences. Et donc, dans ce sens-là, on peut le traiter comme un universel. Tandis qu'en particulier, c'est quelque chose qui n'a pas d'exemplaire. Il n'y a que ça. Enfin, on aimerait bien avoir plusieurs Lionel Messi, mais il y en a seulement un. Et les personnes sont des particuliers. Les objets, la plupart des objets qu'on voit, qu'on a autour de soi, sont de particuliers. Mais il faut pas considérer le particulier comme... c'est vrai que beaucoup de choses concrètes sont des particuliers, mais il y a aussi des particuliers abstraits. Par exemple, les ensembles sont un cas dans les ensembles numériques. Ils n'ont pas d'occurrence, c'est un ensemble, et c'est ça. Et donc, le web aussi, c'est pas concret, mais c'est quand même en particulier. on n'a pas des exemplaires du web. Il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il y a des webs. Il n'y a que le web. Enfin, le web, c'est un exemplaire de la catégorie réseau informatique, peut-être. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que réseau informatique, c'est un universel et il y a des réseaux dans de certaines places et il y a un grand réseau qui c'est le web. Mais le web, comme objet qu'on étudie, c'est quelque chose d'unique, quelque chose qui ne peut pas être réalisé par plusieurs cas en même temps. Donc, la deuxième caractérisation, c'est comme en particulier. Donc, c'est un particulier quasi abstrait. Et le dernier aspect que je veux considérer, c'est que le web comme objet, dans le sens que c'est une chose qui a ce qu'on appelle des conditions d'identité. C'est-à-dire qu'on peut, quand on fait des jugements d'identité, on dit oui, c'est la même chose. Il y a quelque chose dans la réalité, il y a des faits qui supportent notre jugement d'identité. Hein. L'identité, c'est lié à l'existence dans l'étude de métaphysique, d'ontologie. La proposition la plus connue, c'est de Quine, qui dit qu'il n'y a pas d'identité sans identité. Et un autre philosophe anglais, Jonathan Lowe, il a proposé de réduire cette question de l'identité à les objets. Il y a beaucoup de choses qui existent qui peut-être n'ont pas de critères d'identité, mais les choses qui existent comme objets, ils ont des conditions d'identité. En ensemble, on peut dire si deux ensembles sont différents ou sont identiques, dès qu'on sait il suffit de considérer s'ils sont les mêmes éléments. Dans le cas des êtres humains, des êtres vivants, c'est peut-être plus difficile. Il y a les cas des doubles, des clones et tout ça, mais normalement, on peut dire que c'est la même personne que j'ai rencontrée hier ou c'est une personne différente. Et il y a des faits qui nous permettent de donner un fondement à ces jugements d'identité. Donc, dans ce sens-là, les objets sont des choses qui nous donnent la possibilité de dire c'est la même chose, ça c'est différent. Donc, qui sont identiques à soi-même et sont différents de toutes les autres choses. Et le web aussi, c'est un objet dans ce sens technique, dans ce sens philosophique. Parce qu'on sait quand on est dans le web, si on va dans un hôtel, on nous dit « Ah, vous avez la connexion au web », et après on va dans notre chambre, on cherche, et on se rend compte qu'il y a peut-être un réseau, mais on n'est pas connecté au web. Donc, il y a une identité du web qui nous permet de dire « ça c'est le web, ça ce n'est pas le web ». Donc, même si ce n'est pas peut-être si facile à expliciter cette condition d'identité, il y a quand même, nous présupposons le fait que le web soit une chose que nous sommes capables d'individuer, de distinguer des autres choses, même des choses similaires. Et donc, dans ce sens, c'est un objet. C'est un objet, une chose qui a une identité à soi-même. Mais il y a enfin des catégories d'objets. On peut une catégorisation assez simple, c'est de dire qu'il y a du matériel inanimé. Il y a des choses inanimées comme les planètes, les étoiles. Il y a des choses vivantes, ce qu'on appelle les organismes, comme les animaux, les plantes. Et enfin, il y a une catégorie de choses qui sont construites par des êtres vivants, en particulier par les êtres humains, ce qu'on appelle les artefacts. Et donc, des choses comme... les voitures, les verres, les microphones. Enfin, j'ai mentionné les films, que j'aime bien. Mais enfin, il y a beaucoup de cas des artefacts. Enfin, c'est une classification très simple, mais on peut dire que la plupart des choses qui existent, des choses concrètes quand même, qui existent dans notre monde, sont dans ces quatre catégories. Donc, le web, c'est assez facile de le situer dans une de ces quatre catégories. C'est un artefact, dans le sens que c'est quelque chose qui a été, c'est le résultat d'un projet, d'un design, d'un projet fait par des êtres intelligents. même si après le web n'est pas, peut-être il va pas suivre le projet, donc c'est pas un projet qui détermine tout à fait ce que, qu'est-ce qu'une chose c'est. Il y a beaucoup d'artefacts qui ont été au début créés pour une certaine fonction. Et après, ils ont pris une autre fonction. Le téléphone, par exemple, il avait été créé pour envoyer de la musique. Et après, on s'est rendu compte que parler, c'était beaucoup plus utile qu'envoyer de la musique. Et donc, mais l'idée, c'est quand même que quelque chose qui commence à exister dès qu'il y a un projet, dès qu'il y a une façon de lier des composants pour avoir une certaine fonction, un certain fonctionnement. Et donc, il y a une organisation des composantes. Donc, comme résumé de cette première partie, on peut dire que le web, c'est un particulier, qu'il est quasi abstrait et qu'il est un artefact. La deuxième partie, je vais m'interroger sur comment, dès qu'il est un artefact, il est fait pour fonctionner d'une certaine façon, pour avoir une certaine organisation des parties, des composantes et développer une certaine fonction. Qu'est-ce que sont ces composantes? Quelle est cette fonction? Et je vais voir que cette fonction, elle est liée à la notion d'espace. Donc, je fais une tentative de récupérer cette notion de cyberspace qui est peut-être un peu démodée maintenant, mais je pense qu'elle peut encore être utile. Si elle est un peu repensée, reconfigurée, elle peut être utile pour expliquer qu'est-ce que c'est le web. Donc, dès que j'ai dit que le web c'est un artefact, c'est une chose qui a été créée en assemblant des composants pour avoir un certain fonctionnement, je vais m'interroger avant tout sur quels sont les composants du web et quel principe va lier cette composante. Et enfin, du point de vue de l'utilisateur, les composants du web sont des places, on peut le caler des places sur le web, des web places, ce sont des places qu'on visite. Enfin, dès qu'on va sur le web, ce qu'on fait avant tout, c'est d'aller dans certaines places, qui sont des sites, des pages, ou plus en général, on peut appeler des ressources. Mais ce qu'il nous donne, à un niveau purement descriptif, comme utilisateur du web, c'est la possibilité de, enfin, on utilise ces métaphores de visiter, de naviguer, sont toutes métaphores d'espace et qui nous indiquent que utiliser le web, c'est rejoindre certaines places. Après, si on va dans une perspective plus technique, on voit que cette place ont une adresse qui ont de normes techniques Universal Resource Locator ou Universal Resource Indicator. Mais je ne veux pas entrer dans ces détails. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque place sur le web, elle a une adresse. Ça, c'est essentiel. Après, l'adresse, on peut l'appeler de façon différente. On peut voir comment il est réalisé techniquement. Mais enfin, le web, les composants sont des places et des places qui ont une adresse. Et on peut visiter cette place si on connaît leur adresse. Donc, naviguer sur le web, c'est visiter des places. Et pour visiter les places, il faut connaître leur adresse, soit directement en écrivant l'adresse dans le browser, ou indirectement avec les liens. Donc, si on clique sur les liens, c'est aussi une façon d'utiliser l'adresse qui nous porte à une certaine place sur le web. Donc, dans ce sens-là, je pense que l'espace, c'est une bonne métaphore, c'est une bonne catégorie pour décrire le web. Dès que les places sur le web ont une adresse, c'est un peu comme les battements dans une ville. Nous connaissons, si nous savons l'adresse d'un certain bâtiment, nous pouvons le chercher et aller là-bas et le visiter. Et donc, dans ce sens-là, je pense que le terme cyberspace qui a été utilisé et introduit par l'écrivain de science-fiction William Gibson peut avoir encore une certaine utilité dans le sens qu'il nous force à se concentrer sur cette métaphore de l'espace. Mais de toute façon, ça c'est peut-être le problème, les raisons pour lesquelles le terme de cyberspace il était devenu un peu démodé aujourd'hui. C'est qu'il ne faut pas penser que c'est une alternative à notre espace physique, que c'est une copie virtuelle, comme Isabelle disait tout à l'heure, de notre espace physique. C'est quand même un espace différent. Et donc, c'est quand même important de voir aussi les différences entre ce qu'on appelle normalement l'espace et ce que c'est le web comme un espace dans lequel on peut visiter des places. Donc, la première différence, je vais considérer trois différences. La première différence, c'est que les places dans le web, elles ne sont pas parties d'un continuum comme les points, comme les places dans l'espace physique. Et donc, il n'y a pas de vraie distance entre les places. Il n'y a pas, si je veux aller d'une certaine place sur le web à une autre place, il suffit d'écrire l'adresse de l'autre place. Il n'y a pas un chemin à faire, il n'y a pas une distance physique qui est entre les deux places. Au plus, on peut dire que les places sur le web sont connectées par des liens, mais ne sont pas vraiment des distances. La deuxième différence, c'est que l'adresse, c'est essentiel à une place web. Tandis que dans l'espace physique, il y a beaucoup de places qui n'ont pas d'adresse. Si on est dans le désert, c'est une place, mais on n'a pas d'adresse. Et même dans une ville, il y a beaucoup de places qui n'ont pas d'adresse. Donc l'adresse est une chose qu'on ajoute à l'espace physique dans notre culture. Tandis que pour une place dans le web, c'est essentiel. S'il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de place non plus. Et la troisième différence que je veux considérer, c'est liée à les utilisateurs. On peut dire aussi que nous sommes utilisateurs de l'espace physique, dans le sens que on s'en sert de l'espace pour faire beaucoup de choses. Mais dans ce cas-là, on est aussi à l'intérieur de l'espace physique. On est parti de cet espace. On est avec notre corps, on est dans certaines places dans l'espace physique. Tandis que les utilisateurs, les sujets qui font expérience du web, ils ne sont pas vraiment dans cet espace. Ils ne sont pas partis de l'espace qu'ils visitent, de le web comme espace. Ils sont en relation avec cet espace, mais ils ne font pas partie avec leur corps de cet espace. Ce n'est pas un espace inclusif. Ce n'est pas un espace qui contient les visiteurs à l'intérieur. Et surtout cette troisième différence que je pense c'est utile pour comprendre notre relation avec le web, ce qu'on fait avec le web. Les autres deux questions qu'on a choisies pour cette colloque, c'est-à-dire pas seulement qu'est-ce que c'est le web, mais qu'est-ce que le web est en train de faire et qu'est-ce qu'il veut, ou comme Isabelle disait, qu'est-ce que nous voulons. Donc, notre usage du web. Alors, le fait que on peut le traiter comme un espace, on le traite comme un espace, mais on n'est pas dans cet espace comme on est dans l'espace physique, a trois conséquences. La première, c'est qu'on a besoin de dispositifs pour visiter cet espace, pour bouger, pour naviguer, pour explorer l'espace du web, tandis que nous n'avons pas besoin de dispositifs pour être dans l'espace physique, on est déjà là, il suffit de bouger, mais enfin le seul dispositif c'est notre corps, mais c'est pas un dispositif, c'est nous-mêmes. Et donc il y a cette nécessité des dispositifs qui peuvent être des interfaces, on peut les appeler des interfaces, des browsers ou des prothèses si on veut être plus dans un côté science-fiction. Mais enfin, aussi ici, je ne suis pas intéressé aux détails, je préfère la catégorie générale que celle du dispositif. Et ces dispositifs nous donnent des perspectives sur le web, nous donnent un point de vue. Donc, selon du dispositif que nous utilisons, de notre façon d'utiliser ce dispositif. Nous allons voir, les plats, une certaine place sur le web d'une certaine perspective. Dans ce sens-là, le dispositif, c'est un peu comme notre corps, dans le sens que nous avons aussi différentes perspectives sur l'espace physique, selon la façon dont nous bougeons, dont nous utilisons notre corps. Et le dispositif nous donne cette vue ou perspective, au point de vue sur l'espace qui est le web, et en particulier sur les places que nous allons visiter. Et troisième point, ces perspectives, ce sont normalement des cadres, c'est-à-dire des espaces géométriques euclidiennes, normalement bidimensionnels. On a quand même pour l'instant, ça c'est plutôt, c'est plus qu'il y a de perspectives, je pense, c'est essentiel au web. La façon dont ces perspectives sont faites, c'est peut-être en fait plus historique. Mais c'est, je pense que c'est important de noter que pour l'instant, c'est dominant le modèle bidimensionnel. On a essayé avec Google Glass et des autres projets d'avoir aussi des perspectives tridimensionnelles sur le web, donc d'une façon peut-être plus semblable à l'espace physique. Mais il me semble que pour l'instant, le modèle dominant, ça reste le cadre. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai l'impression que dans le cinéma, c'est similaire. On a fait beaucoup de tentatives pour avoir la troisième dimension, le cinéma 3D et tout ça. Mais il y a beaucoup de résistance à ça. Il semble que notre esprit, notre cerveau, c'est peut-être mieux, un peu plus bien à l'aise avec le cadre bidimensionnel qu'avec une perspective trois-dimensionnelle dans ce cas-là, même si nous sommes normalement dans un monde physique tridimensionnel, trois-dimensionnel. Et la quatrième et dernière conséquence de cette relation entre les utilisateurs et l'espace peculier du web, l'espace spécial qui est le web, c'est que les utilisateurs, comme on a dit, ils ne peuvent pas être à l'intérieur avec son corps. Donc, ils ont besoin aussi de ce qu'on peut appeler en général des avatars. Après, aussi, il y a beaucoup de cas. Il y a des usernames, des profils, des accounts. Ça dépend de la plateforme, du logiciel. Mais ce qui m'intéresse dans la description en général, c'est que pour être là, nous avons besoin de quelque chose qui est là à notre place, qui nous représente dans l'espace du web. On ne peut pas être là avec notre corps, et donc on a besoin d'un dispositif pour se relier à cet espace différent de notre espace physique. Et si nous voulons être à l'intérieur, si nous ne voulons pas être seulement d'observateurs, mais nous voulons agir à l'intérieur du web, nous avons besoin de quelque chose qu'on peut appeler un avatar. Dans ce sens-là, il y a une situation qui rappelle le dualisme de Descartes. C'est une position qui est très critiquée aujourd'hui. Personne dans la philosophie de l'esprit ne veut être cartésien. C'est presque... si on dit vous êtes cartésien, bon, l'agence est gênée. Bon, on n'aime pas ça. Mais enfin, peut-être il y a de bonnes raisons. Il y a le très fameux bouquin par Damasio, l'erreur de Descartes et tout ça. Mais enfin, je ne veux pas faire de la philosophie de l'esprit ici. Ce qui m'intéresse, c'est que même si ça, c'est pas un bon modèle pour la philosophie de l'esprit, je pense que le modèle cartésien, c'est quand même bon pour expliquer notre relation avec le web. Dans le sens qu'on a un sujet qui fait expérience, qui agit aussi dans un espace, qui est l'espace du web, mais le sujet, comme le sujet cartésien, n'est pas dans l'espace. Et donc, l'avatar joue le rôle que dans la philosophie de Descartes jouait le corps. Donc, il y a une situation dans laquelle, pour interagir avec cette place qui sont dans le web comme espace, nous ne pouvons pas faire comme sujet, comme le sujet que nous sommes, mais nous avons besoin de quelque chose qui est là, qui est dans cet espace et qui nous représente. Donc, je pense que cette structure d'espace, c'est que ce que fait vraiment que le web quelque chose de nouveau d'un point de vue ontologique. Dans ce sens-là, c'est même plus nouveau que ce qu'on appelait la réalité virtuelle. Parce que la réalité virtuelle, ce n'est pas vraiment nouveau. C'est seulement le fait que le cas, je considère par exemple le cas plus connu peut-être de réalité virtuelle, c'est-à-dire Matrix. Dans ce cas-là, on fait seulement, ce qu'on fait, c'est une copie de notre espace physique. C'est une copie non physique, un double non physique de notre espace physique. Mais on n'a pas inventé rien de vraiment neuf d'un point de vue ontologique. Il y a une chose qui existe déjà, c'est l'espace physique. On en fait un autre espace qui est une simulation, mais c'est quelque chose d'alternatif. Mais la structure, c'est la même. Tandis que dans le web, on a fait quelque chose de différent. On a pensé, même pas seulement pensé, mais réalisé, un espace qui a une structure ontologique différente de l'espace physique. Et qu'est-ce que c'est cet espace? Bien sûr, dans notre monde, dans notre réalité, c'est un espace qui est imbriqué dans l'espace physique et qui dépend de l'espace physique. C'est un espace qui a une dépendance de l'espace physique et qui contient des informations qui sont reliées à l'espace physique. Ça, c'est ce que Isabelle a très bien expliqué dans l'exposé avant le mien. Mais ça, c'est le. Donc, je suis d'accord avec ce qu'on a été dit avant, que le web, c'est un espace spécial, qui a une structure spéciale, mais qui dépend de notre espace physique et qui est, d'une certaine façon, à l'intérieur de notre espace physique. Mais on peut quand même se demander si on peut concevoir un monde qui n'était fait que d'un espace comme le web. Donc, s'il pourrait exister comme espace sans besoin de dépendre de l'espace physique. C'est ce qu'en philosophie, on appelle un expériment mental, un thought experiment en anglais. L'exemple pour moi, c'est l'expériment de Peter Strawson. Il se demandait dans son livre Individuals, il se demandait si on peut penser à un monde qui n'est fait que de sons et d'écouteurs de son, des subjets immatériels qui sont des écouteurs de son. Et il n'y a, dans ce monde, il n'y a pas d'espace, il l'appelle « no space world ». Et il se demande si on peut concevoir un monde comme ça, un monde dans lequel il n'y a que de son et des subjets qui écoutent de son. Et sa réponse est oui, même si c'est un oui sous condition. Mais il arrive à démontrer qu'un monde comme ça, il n'existe pas, bien sûr. C'est clair qu'il y a dans notre monde réel, il y a aussi des autres choses qui ne sont pas des sons. Mais on peut quand même concevoir un monde dans lequel il n'y a que des sons. Et je pense que si on fait un exercice similaire avec le web, on peut penser à un monde dans lequel il n'y a que de place sur le web et des subjets qui navigue sur le web. C'est même si donc le données empirique, bien sûr, c'est que le web s'est fait dans notre monde, c'est une création faite à l'intérieur du monde physique. Mais c'est intéressant considérer qu'il pourrait exister même indépendamment du monde physique, quand même. C'est pas une possibilité physique, mais c'est une possibilité métaphysique. C'est une concevabilité. Et je pense que c'est le fait que ce monde a cette capacité d'être autonome du monde réel, même si il n'est pas vraiment autonome en fait. Cette possibilité métaphysique de l'espace du web d'être autonome de l'espace réel, d'être conçu comme un espace stand-alone. Ça peut peut-être expliquer parce que les gens ont cette tendance à considérer le web comme une place si importante dans leur vie et peut-être parfois à penser qu'avoir l'impression que tout se passe dans le web. Parce qu'il a ce pouvoir d'être autonome, même s'il n'est pas autonome, il a une structure métaphysique qui pourrait être autonome du monde réel. Et c'est peut-être aussi, et ça c'est ma conclusion, c'est aussi que la structure de cet espace, les différences qu'on a vues entre le web comme espace et l'espace réel, font aussi que l'espace du web, c'est peut-être plus proche des inclinations de notre esprit. Notre esprit, on n'aime pas beaucoup les distances physiques. C'est mieux, quand on pense, on n'a pas de distance physique, on va d'une pensée à l'autre, et comme on va dans un site web, à un autre site. Donc, ça peut être un espace qui correspond mieux à ce qu'on veut, à comme notre esprit est fait. Donc, un espace dont on est peut-être plus à l'aise que dans l'espace physique. Et c'est peut-être une raison par laquelle on a cette tendance à donner si d'importance et de passer si de temps sur le web.
Merci beaucoup. Moi, j'ai une question pour Enrico Terrone. En fait, bon, j'ai été très intéressée par la façon dont il a fait du web un objet quasi abstrait et particulier. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une chose qui m'a surprise et sur laquelle j'aimerais bien qu'il nous explique davantage son point de vue. Si je suis bien son raisonnement, donc dans la mesure où un quasi abstrait, selon Barry Smith, existe dans le temps mais pas dans l'espace, je me suis demandé en vous écoutant s'il n'était pas plus simple en fait de retrouver à l'intérieur du web non pas une métaphore spatiale mais peut-être une dimension temporelle, c'est-à-dire que les différences que vous avez soulignées entre l'espace du web et l'espace physique, bon, si je comprends bien, il me semble qu'on pourrait les résumer en disant que l'espace physique est la condition de possibilité d'apparition des objets physique, alors que le web comme espace n'est constitué que par les objets qui sont à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'a surprise, c'est qu'un objet dont vous dites vous-même qu'il existe dans le temps et pas dans l'espace serait un objet qui contiendrait en fait une structure spatiale. Alors, je me demandais de ce point de vue-là, et je voudrais, enfin, très, très globalement, un peu audacieusement, avoir votre avis sur cette question. Est-ce qu'au fond, il n'y aurait pas un objet qu'on pourrait utiliser aussi pour interroger ce que vous faites et qui m'intéresse beaucoup hein, à l'intérieur du web? C'est l'objet quadridimensionnel. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est la façon dont sur le web, les choses défilent, en fait, ne sont pas fixes, elles ne sont pas fixées à un endroit. Vous le dites très bien avec cette question des adresses. C'est-à-dire, ce qui fait exister quelque chose dans ce qu'on appelle l'espace du web, c'est une adresse. Alors que nous, c'est le contraire, on crée des adresses pour décrire les espaces dans lesquels on va. Et de ce point de vue-là, je me demandais voilà, si on ne pouvait pas, par exemple, je pensais à la timeline sur Twitter. Bon, la timeline, est-ce que c'est un espace ou est-ce que c'est un objet quadridimensionnel en train de se manifester sous nos yeux et dont on ne peut pas ne pas voir la dimension très spécifiquement temporelle?
Oui, en fait, l'idée, c'est que quand même sur le web, le temps passe. Donc, je ne l'ai pas dit ça, je suis content d'avoir la possibilité de faire cette clarification grâce à votre question. En fait, oui, le web, il n'existe pas dans notre espace physique, mais il crée un espace. Et dans cet espace, le temps, il passe. Donc, c'est un espace-temps, ce qu'il crée, en effet. Parce que dans le site, il change avec le temps. Donc, quand on navigue, on fait des choses, des actions qui ont des effets dans le temps. Et qui vont, donc, c'est en fait, je le caractérise comme un espace, mais bien sûr, c'est un espace-temps. Qui a un temps. Et le temps, c'est le même, dans ce sens-là, il est lié à notre monde. C'est le même temps qui passe dans notre monde physique. Donc, le vrai lien avec notre monde physique et le web, c'est qu'il partage la même ligne temporelle. Et donc, après, la question, si il faut être quadridimensionnaliste ou tridimensionnaliste, ça dépend peut-être aussi de la façon de voir les choses dans le monde. Donc, si on a, comme certains philosophes font, de considérer aussi les personnes comme des créatures quadridimensionnelles qui n'ont pas, n'existent pas seulement maintenant, mais qui existent aussi dans leur passé, même si nous ne pouvons pas avoir une perception de leur passé, mais seulement de leur présence. Et donc, dans ce cas-là, aussi, les objets. Peut-être les objets sur le web sont plus... le quadridimensionnalisme, ça marche mieux comme description sur le web, dès qu'il y a cette trace qui sont là, tandis qu'il n'y a pas de trace de ce que j'étais il y a 5 minutes, sinon la trace peut-être qu'il est en train de faire. Et donc, oui, le temps, en fait, ça serait peut-être une autre exposé, un autre travail qu'il faut faire, parce que aussi, enfin, je me suis concentré sur la dimension de l'espace. Mais la question du temps aussi, c'est très important. Et c'est peut-être même... d'un côté, il y a une très grande différence entre la structure de l'espace et la structure de l'espace physique et la structure du espace du web. Tandis que c'est le même temps, le temps a la même structure et dans le web que nous avons dans notre monde, qui est le seul web empirique qui existe, c'est peut-être pas seulement la même structure, mais c'est vraiment le même temps. Et c'est pourquoi il y a cette lien si fort sur lequel vous avez insisté dans votre exposé. Merci.
Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé qui m'a beaucoup intéressée. J'étais un peu interpellée par la distinction que vous faites entre le cyberspace, le cyberespace et l'espace physique, non pas qui est tout aussi virtuel à mon sens que l'espace cyber. Enfin, voilà, on pourrait revenir sur cette question de virtuel, etc. Moi, je ne rentre pas du tout dans c'est la question que je voulais poser à Madame précédemment, mais je passe cette question. Moi, il me semble qu'il y a des caractéristiques. Aussi, je ne sais pas si elle rentre dans votre théorisation ou pas, des caractéristiques assez particulières au cyberespace, qui sont notamment que c'est un espace en expansion constante. C'est un espace qui, étant donné que les données s'amassent en quantité massive, en temps réel, d'une manière exponentielle, en fait, c'est un espace dont on n'aura jamais fait le tour. Ce qui fait aussi qu'il y a, à mon sens, une sorte d'inversion entre la notion de carte et de territoire. Si vous voulez, c'est une sorte de carte qui est à elle-même son propre territoire ou qui génère son territoire au fur et à mesure qu'elle se trace. Ça, c'est quelque chose aussi qui est assez particulier, à mon sens. Alors, j'ai été fort intéressée par votre définition du point de vue. Parce que pour moi, en fait, dans ma perception, on était dans le cyberespace est un espace sans point de vue et sans perspective, dans la mesure où, et en particulier si on prend l'œil de l'algorithme, hein, si on ne prend pas notre regard à nous, mais il y a aussi toutes les machines dont on n'a jamais parlé, qui ont un point de vue, elles aussi, qui ont des images, qui ont une perception qui est indépendante de la perception humaine. Et là, l'idée même de point de vue et de perspective disparaît. Ce qui permet d'ailleurs d'avoir des smart cities, par exemple, donc des villes intelligentes qui peuvent s'organiser sans aucune perspective, puisqu'en temps réel, on peut se repérer avec un smartphone au fur et à mesure. On n'a plus besoin de projeter aucune trajectoire, on n'a plus besoin d'avoir même d'avoir une position, un point de vue. Alors, ce qui m'a fort intéressé, c'est que vous substituez au corps, parce que nous avons toujours un point de vue spécifique et limité sur le monde, parce que nous avons un corps qui nous oblige à regarder, on a un champ de vision relativement limité, vous substituez ça par le dispositif. Voilà, c'est le dispositif qui fait le point de vue. Mais dans ce dispositif, c'est pas simplement un objet, c'est pas simplement un artefact, c'est toute une rationalité de perception. Ce sont pas seulement des artefacts, ce sont des rationalités calculantes. Et en fait, le dispositif, qu'est-ce qu'il fait ? L'algorithme qui est dans le dispositif, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va adapter votre point de vue à tout votre historique de navigation, mais aussi à toutes les relations que vous avez pu avoir sur Internet. Il va adapter votre navigation aux intérêts inférés de par l'analyse statistique de tout ce qui fait de vous un être connecté, c'est-à-dire un être sans intérieur, qui n'existe que par, que et que en fonction des relations, c'est-à-dire des relations, numériques. Et enfin, une autre caractéristique qui me paraît intéressante pour distinguer le cyberespace de l'espace physique, eh bien c'est précisément la disparition de notions de trajectoire planifiée au profit d'une notion de trajectoire opportune. C'est-à-dire que, pour donner un exemple tout à fait trivial, celui du smartphone qui vous oriente dans une ville et qui vous donne, qui vous informe que, alors que vous aviez prévu de prendre la ligne 6 puis la ligne 8, en fait un bus est en train d'arriver qui va vous mener plus vite à destination. La trajectoire, la planification fait place à la pure opportunité. Donc l'opportunité remplace le projet. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez significatif aussi, dans la mesure où cette suppression, ce remplacement du projet par l'opportunité, c'est aussi la disparition de l'errance, la disparition de la possibilité de perdre son temps, justement de perdre son temps dans l'espace. Donc il y a un rapport évident entre temporalité et espace dans le cyberespace, et qui est un rapport d'absorption mutuelle, me semble-t-il, hein, d'absorption mutuelle, ou d'absorption dans une sorte de temporalité de temps réel de la totalité de l'espace qui a priori ne serait pas l'espace dans lequel on pourrait errer disparaît au profit de l'espace qu'on traverse de façon efficace.
La première, c'est la question de l'expansion. Je pense que c'est intéressant parce que c'est une autre analogie avec l'espace physique. Enfin, les physiciens, ils disent que l'espace, c'est notre espace, l'espace-temps, l'univers, c'est en expansion. C'est un univers en expansion du Big Bang en avant. Et dans ce sens-là, le web aussi, son Big Bang, c'est dans 1989. Et de là, il a commencé s'expander. Et donc l'expansion, je pense que c'est une chose, que c'est une analogie si on compare le web et l'espace physique, mais il y a aussi une différence bien sûr, parce que c'est une expansion qui a une façon différente, une forme différente. L'autre chose, c'était sur la perspective. Quand je dis que le dispositif détermine notre perspective, c'est aussi que ce n'est pas seulement la perspective dans le sens du cadre, mais c'est aussi qu'ils ont une mémoire, ils ont des algorithmes qui font des calculs et ils nous montrent des choses, ils nous font voir les places que nous visitons sur le web en fonction des calculs qu'ils ont faits, de l'information qu'ils ont élaborée. Je ne suis pas d'accord avec vous, c'est sur le fait que les dispositifs, ils ont une perspective. Pour moi, une perspective, dans le sens que je l'entends, c'est une perspective d'un sujet qui nécessite une conscience. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver dans des dispositifs. Les raisons sont les raisons que John Searle explique dans ses essais. Donc aujourd'hui, vous pouvez entendre de lui beaucoup mieux que de moi cet argument. Mais donc, la raison pour laquelle je doute à attribuer une perspective au dispositif, c'est le fait qu'ils n'ont pas une conscience. Donc, pour moi, la perspective, c'est lié à la conscience. Donc, les dispositifs nous donnent une perspective. Ils déterminent la perspective que nous avons sur les places du web que nous visitons. Donc, ils déterminent notre perspective sur le web. Mais j'ai des doutes à dire qu'ils ont une perspective.
You write, users who visit web places are not inside the web, but probably they will be inside the web. Think about the HoloLens project by Microsoft, for example. So you mentioned William Gibson. You know, I'm not very sympathetic with sci-fi fiction, but I love another Gibson. It's James Jerome Gibson. Do you think it's possible to do a sort of ecological approach to web? So to talk about space in a Gibsonian James Jerome sense.
Indeed, I'm doubt about since ecological space I think is related to three dimensionality, and that's the this it's a it's the open question, I think, whether the web will become a sort of more ecological space rather than a more abstract and logical space, information space, as it is now. I don't know. I think it's very just a clue in this sense, just a case study that I find anyway quite useful is the case of Second Life. Second Life, it was a sort of attempt to make a web that is a space in which you can navigate in a way similar to physical space. Yes, no, of course. Second Life, maybe the limits was just the fact that they used the screen. But you see, I think that my impression is that the subject, they do not like distances. And in a space, in an ecological space, you in order to move from a place to another place, you need to walk. In Second Life, you should walk. That's, in my view, one of the reasons why Second Life was a failure. The fact that in order to move to a website, to another website, you should travel. Yeah. Whereas the magic of the web is that you can go everywhere just by a click or by writing an address. And I think that our mind work in this way and prefer spaces in which, even if we are born in an ecological space that require physical distances, but the functioning on our mind is greater. Indeed, it's the point that you can find in Kant also, that the inner sense is time, not space. Space is just an outer sense. I think in Gibson, I think it's a good empirical description of what we are, but I think that it's useful also to wonder what we could be, how we can conceive of ourselves, also by in some sense independently of what we really are, the possibility of our mind, the structure of our mind. In a certain sense that are, even if the mind is constrained by physical reality, by the ecological environment, there are some possibilities that seems to go beyond, some way of conceiving scenarios that are different from physical scenarios. And in this sense, I think, and constructing also things such as the web that allows us to move in space that are more sympathetic with the functioning on our mind than the physical space.
Merci Enrico, on va arrêter, je vous propose aussi de continuer parce que je pense que vous avez encore des questions.